France Info.
Qui est le général Mondon? Les déclarations du nouveau chef d'état-major devant le Congrès des maires de France ont été très remarquées et très commentées. Son portrait dans un instant. Les politiques publiques sont-elles laxistes face au narcotrafic? Elles sont mises en cause en tout cas par la droite et l'extrême droite après l'assassinat la semaine dernière à Marseille de Mehdi Kessassi. Deux Amériques ont rendez-vous à la Maison Blanche dans le bureau ovale, celle de Donald Trump et celle de son hôte du jour, le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, diabolisé en communiste, ennemi des États-Unis par le président américain pendant la campagne électorale. Et le football, Nice reçoit l'OM ce soir dans le match d'ouverture de la 13e journée de Ligue 1, un derby méditerranéen entre des Niçois pas au mieux et des Marseillais qui peuvent ce soir reprendre la tête du championnat. Une phrase toujours très commentée, c'était mardi devant le Congrès des maires de France. Le général Mandon jugeait nécessaire que le pays restaure sa force d'âme pour accepter de protéger ce que l'on est, quitte à souffrir, et que le pays soit prêt à accepter de perdre des enfants. Pour l'une de ses premières déclarations publiques, le nouveau chef d'état-major des armées a donc marqué les esprits. Et ce n'est sans doute pas un hasard, Éric Biégala.
Quand il cause, on l'écoute, titrait l'Express en juillet, juste avant sa nomination au plus haut poste des armées françaises. À l'époque, Fabien Mandon est encore le chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron, déjà l'une des plus hautes fonctions possibles pour un militaire de carrière. Mais Fabien Mandon n'a rien du militaire classique, martial ou fort en gueule. Au contraire, il est discret, toujours souriant. Il voulait être footballeur professionnel, confiait-il à l'Express avant de se lancer dans l'armée, d'abord pour être pilote. Engagé sur 144 opérations de guerre, notamment en Centrafrique, au Tchad et surtout en Afghanistan. Fabien Mandon commande aussi plusieurs escadrons, puis la base aérienne d'Avor, à vocation nucléaire, avant de rejoindre dès 2017 les états-majors particuliers, celui du ministre des Armées et celui du président de la République. Proche d'Emmanuel Macron, dont il dit apprécier l'agilité d'esprit et la réactivité, il était de l'aveu de nombreux conseillers, celui qui chuchote à l'oreille du président. Sa nomination au poste de chef d'état-major des armées n'a pas surpris grand monde et les aviateurs ont exulté 30 ans qu'il n'avait pas eu l'un des leurs à la tête des armées.
Éric Biégala, à Marseille, l'émotion ne retombe pas après l'assassinat la semaine dernière de Mehdi Kessassi, que le ministre de l'Intérieur et le procureur ont qualifié de crime d'intimidation. Malgré le vote au Parlement de la loi narcotrafic promulguée en juillet dernier et malgré un rapport transpartisan qui proposait des options peu conventionnelles, la droite et l'extrême droite continuent de mettre en cause le laxisme des politiques publiques, Laurence Perron.
Alors quand Emmanuel Macron s'en prend aux bourgeois des centres-villes qui financent le trafic, Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, établit un lien direct entre narcotrafic et immigration.
On ne peut pas, je suis navré, combattre sans s'attaquer également à l'immigration anarchique et illégale.
Pourtant, en février 2025, une mission d'information transpartisane menée par le député insoumis Antoine Léaumont et le macroniste Ludovic Mendès a produit un rapport étayé par 18 mois d'enquête qui enjoignait les pouvoirs publics à changer d'approche. Ludovic Mendès.
Lutter contre la complicité au sein des forces de police, de douaniers ou de fonctionnaires. Et surtout, il faut pouvoir trouver une solution pour sortir le client de là. Et ça veut dire la légalisation, l'encadrement. Parce que si on n'assèche pas le marché, ce ne sera pas suffisant.
Pour son collègue, l'insoumis Antoine Léaumont, la lutte dépasse le cadre national.
Les réseaux de blanchiment et les réseaux de fraude et d'évasion fiscale, ça passe par les mêmes circuits, ça passe parfois par les mêmes intermédiaires. Il y a aussi le sujet de la production de drogue, c'est un sujet qui n'est jamais évoqué. Mais il y a une agence de l'ONU qui s'appelle l'ONUDC pour faire en sorte qu'au lieu de produire de la coca, ils produisent par exemple du café, notamment en Colombie. Et ben, c'est une agence qui a un budget de 40 millions d'euros. La France participe à hauteur de 200 000 euros.
Et les deux députés que pourtant tout oppose politiquement de conclure que précisément sur la lutte contre le narcotrafic, il faut abandonner ses œillères idéologiques.
Laurence Perron, une femme de 32 ans a été tuée par arme à feu hier à Besançon. Son ex-conjoint de 34 ans a été placé en garde à vue pour assassinat. Le suspect avait d'abord pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre et s'est retranché à son domicile à une vingtaine de kilomètres de Besançon. Après des négociations avec le RAID, dépêché sur place, il a finalement été interpellé en milieu de journée. Récemment hospitalisé dans un service psychiatrique, il a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits de violence, mais aussi de harcèlement moral contre une autre de ses anciennes compagnes. France Info, il est 5h04. Ce sont deux représentants de l'Amérique complètement opposés qui se rencontrent aujourd'hui à la Maison Blanche, le président Donald Trump et le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, élu au début du mois. Il prendra ses fonctions en janvier. Démocrate, socialiste, immigré, musulman, il incarne tout ce que Donald Donald Trump déteste, mais les deux hommes ont donc prévu de se retrouver quand même dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington. Timur Özturk.
Donald Trump l'appelle le maire communiste quand Zoran Mamdani a lui promis de combattre le fascisme de Trump. La relation entre le président et le maire s'annonçait tendue, d'autant que Donald Trump a tenté sans succès de lui barrer la route en soutenant son adversaire au municipal, en menaçant de réduire les fonds fédéraux alloués à New York. Au soir de sa victoire, Zoran Mamdani s'était directement adressé à Donald Trump dans une forme de défi. Mais leur rapport semble s'être apaisé. Le maire de New York a demandé à rencontrer le président, qui a immédiatement accepté. « Je travaillerai avec Donald Trump sur tout programme qui profite aux New-Yorkais », affirme même Zoran Mamdani, tandis que le président assurait il y a quelques jours qu'il souhaitait que tout se passe bien à New York, sa ville natale. Quel sera le ton de leurs échanges ? Hier, Zoran Mamdani s'est dit prêt, quoi qu'il advienne.
Timur Özturk, l'un des correspondants de France Info aux États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide en faveur d'une paix digne, respectueuse de la souveraineté de son pays, alors que les États-Unis ont présenté un plan qui prévoit en particulier que Kiev cède à la Russie les régions de Donetsk et Lugansk dans l'est du pays. Ces deux régions que Moscou réclame, mais aussi la Crimée, annexée par la Russie en 2014, serait reconnue comme russe, y compris par les États-Unis, selon les termes de ce projet. À Belém, au Brésil, dernière heures de négociations avant la fin de la conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP30. Le sujet le plus clivant, c'est sans doute la sortie des énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique. 80 pays, dont ceux de l'Union européenne, plaident pour une feuille de route pour sortir du fossile, une ligne rouge au contraire pour certains pays producteurs. Et c'est pourtant indispensable, comme le souligne l'ONG Réseau Action Climat, l'une de ses porte-parole, Gaïa Fèvre.
Il ne s'agit absolument pas de dire que tous les pays doivent sortir en même temps des énergies fossiles. Il y a des pays comme l'Australie, le Canada, la Norvège, qui sont des producteurs, qui ont les moyens d'organiser leur sortie des énergies fossiles. Et ils ont une responsabilité historique en termes d'émissions passées. Et ils se doivent de sortir en premier. Ensuite, certains pays, notamment en Afrique et dans d'autres pays plus vulnérables, ont aussi des ressources liées au gaz, au charbon et au pétrole dans leur sol, et il faut les accompagner dans cette sortie. Il faut du soutien financier pour ce faire, et on ne peut pas leur demander de sortir au même rythme que les pays qui ont les moyens d'organiser leur sortie des énergies fossiles.
L'une des porte-paroles de l'ONG Réseau Action Climat, Gaïa Fèvre. Quelques 23 000 décès auraient pu être évités en Angleterre entre mars et juillet 2020 si le premier confinement au début de la pandémie de Covid-19 avait été décidé plus tôt. C'est ce qui ressort d'une enquête publique qui pointe le chaos régnant à l'époque dans le gouvernement de Boris Johnson. Le Royaume-Uni a enregistré l'un des plus lourds bilans en Europe liés à la pandémie avec quelques 226 000 décès. Le football à 5h08 sur France Info avec le coup d'envoi de la 13e journée en Ligue 1. Nice reçoit l'OM pour le match d'ouverture. Les Niçois qui ne sont pas au mieux. 3 défaites, toutes compétitions confondues et 9e au classement, avant de recevoir l'OM qui est 2e à 2 points du PSG et qui a d'ailleurs l'occasion ce soir de reprendre provisoirement la tête du championnat. Et comme d'habitude, ce match risque de faire des étincelles. À Nice pour France Info, Julien Froment.
L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, sait très bien à quoi s'attendre ce soir du côté de Nice avec un climat qui n'aura rien à voir avec les températures extérieures.
Il fait froid en ce moment, mais ça va bien se réchauffer au stade.
Et l'ambiance à l'Allianz Riviera risque d'être incandescente. La Tribune Populaire Sud, le groupe ultra niçois, fêtera en effet ses 40 ans d'existence. Une raison de plus pour le capitaine Melvin Barre de tout donner sur le terrain.
Tout est réuni en fait pour pouvoir faire un très bon match, mais c'est ça, c'est les 40 ans de la POP. Faut les rendre fiers, faut rendre fier ce peuple niçois en plus sur un derby comme ça, donc il n'y a pas de mot à voir, c'est juste aller à la guerre et puis voilà.
En espérant que la ferveur niçoise ne dépasse pas les limites, comme en 2021, le derby avait été arrêté après des projectiles lancés sur Dimitri Payet et l'envahissement du terrain par des supporters azuréens.
Et Julien Froment, et le coup d'envoi, c'est à 20h45 ce soir pour ce Nice. OM, match d'ouverture de la 13e journée en Ligue 1 à 5h09. La première tendance météo de ce vendredi avec Christine Peña. Christine, le siège se dégage par l'ouest.
Par l'ouest, oui, on a un petit répit là, un peu de soleil qui va arriver. Le soleil se maintient en Méditerranée. On a le vent qui se renforce, à noter, hein, des rafales à 100 km/h vers le Roussillon et en basse vallée du Rhône. On a quand même un peu de neige, hein, un peu partout, entre le centre Val-de-Loire cet après-midi jusqu'au Massif central. Ça pourrait tomber jusque dans les Alpes. Les Pyrénées aussi vont faire le plein. 10 à 20 cm de neige fraîche sont attendus sur les Pyrénées à 1000 mètres d'altitude, avec une limite pluie-neige très basse à 300 mètres d'altitude. Et le froid s'intensifie, on en parle tout à l'heure.
Christine Peña, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant 5h30.